bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Enro Mastro Giovanni. Mes enfants, avait dit le vieux Gorcha avant de partir, attendez-moi 6 jours, si au terme de ces 6 jours je ne suis pas revenu, dites une prière à ma mémoire car je serai tué au combat. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après 6 jours révolus, je vous ordonne de ne point me laisser entrer, quoi que je puisse dire ou faire, car je ne serai plus qu'un maudit Vourdalak. C'est dans une famille en proie à l'angoisse, au terme du 6e jour, que trouve refuge le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfey, noble émissaire du roi de France. Voici l'étrange synopsis du Vourdalak, un film d'Adrien Beau qui est sorti mercredi dernier et qui est toujours évidemment à voir en salle. Et pour parler de ce film unique, de ce film à part, nous avons le plaisir de recevoir sa productrice, Judith Loulévy. Bonjour Judith.
Bonjour.
Alors j'ai pas résisté à l'envie de lire ce synopsis à voix haute, un synopsis qui est parmi... aussi particulier, disons, que son film, aussi envoûtant que son film, très littéraire comme le film l'est. Il vient d'où ce synopsis? C'est qui a eu l'envie de l'écrire de cette manière-là?
C'est une très bonne question. Vous l'avez très bien lu.
Ah,
très
bien lu. Merci.
C'est exactement comme ça qu'il a... Enfin, il a été pensé pour être lu mentalement de cette manière. Mm-hmm. Merci. Les synopsis, c'est un exercice toujours délicat parce que c'est une écriture de désir et on essaie de faire appel à un point assez mystérieux du spectateur possible. Essayer de susciter chez lui un mouvement. Et je crois que c'est important de la même manière d'ailleurs, ça peut me faire enchaîner direct sur les rapports au film, mais c'est pas forcément finalement, enfin en tout cas, à mes yeux, et je crois que c'est un point commun avec les cinéastes avec lesquels je travaille, on travaille avec mon associé Eve Robin, je crois pas que ce soit la ligne narrative, le début, le milieu et la fin, en fait, qui sont toujours le plus percutant dans le rapport au cinéma et au film, mais c'est plutôt, je crois, la sensation, la tension, le mystère d'un instant, qui vous tient, en fait. Et j'aime bien me dire qu'un film, c'est aussi passer de moment en moment, de séquence en séquence. Et à titre personnel, en tant que spectatrice, je crois que... pour moi, les bons films sont les films où il y a au moins deux grandes scènes, deux grandes séquences. Et c'est souvent de ça dont je me souviens, en fait, les histoires qui sont aujourd'hui tellement marketées, tellement... on dit, on est là pour raconter des histoires, mais c'est quoi les histoires? Et je vais vous raconter des histoires. Pour moi, c'est pas l'enjeu du cinéma, en fait. On n'est pas là pour ça. Bon, il faudrait y revenir et développer, mais voilà, je crois que pour moi, c'est vraiment des moments qui comptent. Et donc, cette prophétie-là, elle renvoie, je crois, à des souvenirs d'enfance. Qu'on peut avoir et qui sont des points de mystère qui sont forts, qui sont aussi l'extravagance des contes. Parce que moi, par exemple, qui ai eu un rapport assez fort avec les contes de Grimm, auxquels je reviens de temps en temps avec mes neveux, par exemple, ou juste à titre personnel, quand on ouvre les contes de Grimm, qui sont vraiment à chaque fois des plongées dans des univers extrêmement bizarres, extrêmement profonds, visuels, mentaux. C'est des contes qui font 2 pages, en fait.
C'est vrai qu'il y a dans ce synopsis cette atmosphère gothique qu'on retrouve complètement dans le récit. Il y a cette ambiance littéraire. C'est adapté d'un livre de Tolstoï, mais un autre Tolstoï que celui qu'on connaît, son cousin, il me semble. Mais en même temps, ce n'est pas un synopsis qui nous raconte de quoi parle exactement le film. Il n'est pas question de vampire, parce que plus ou moins un film de vampire. Il n'est pas question de... On voit un personnage, mais on ne sait pas exactement où ça se passe. On devine quand ça se passe. On comprend que c'est une époque lointaine, il y a bien longtemps. On comprend, vu le conte, que c'est plus ou moins le XVIIe siècle. Mais il n'y a pas eu cette volonté de raconter véritablement de quoi ça parle. Ce n'est pas un synopsis qui dit de quoi ça parle.
Non. Non, 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 moi, enfin, je vais parler beaucoup en jeu hein, ce matin, puisqu'on se rencontre, on discute, et donc je pense que c'est toujours quelque chose qui n'est pas complètement à la fois défini. Enfin, c'est une sorte de flou, de désir flou qui nous rassemble entre collaborateurs artistiques quand on décide de faire un film ensemble. Et quelque part, ça se passe bien quand on se rend compte quand même qu'on va dans une direction assez proche. Moi, ce film, j'aime le raconter et essayer de donner envie aux gens en disant que, voilà, que c'est un film de rubans, de bas de soie, de forêt humide, de perruques, de langues, que c'est une sorte de rencontre entre ridicule et le bal des vampires, ou dans lequel il pourrait y avoir aussi un peu quelques grains du Casanova de Fellini, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est plus une expérience rocambolesque, gothique, qui en effet s'apparente aussi à une certaine forme de goût littéraire, cinématographique, et qui nous sont, qu'on avait en partage avec Adrien Beau, le réalisateur. Mais en effet, la question de l'histoire en elle-même n'est pas tellement le problème, en fait. Mais souvent, moi, j'aime bien dire quand... Je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec les étapes de fabrication d'un film, mais bon, il y a cette étape très importante qui peut être très longue et qui parfois, d'ailleurs, est la seule qu'on connaisse sur un film, qui est l'étape de développement. Donc, c'est tout le temps qui précède, en fait, la mise en production du film. C'est tout le temps qui précède la certitude qu'on aura les fonds suffisants pour le fabriquer. Donc c'est ce temps où en fait on imagine le film, on essaye de penser le meilleur film possible, et aussi le meilleur film possible dans un horizon de faisabilité. Hein. Donc c'est une équation perpétuellement réfléchie chaque jour. Et dans le cadre du développement justement, je suis un peu perdue là dans ma dans ma circonvolution.
Mais effectivement, enfin, ce qu'on devine, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a cette volonté de trouver le point de raccord entre l'envie du réalisateur et ce qui est possible de faire, le regard.
Exactement.
Aussi,
j'ai retrouvé dans le cadre du développement souvent, en fait, quelque part, un film, c'est en fait, il y a des choses qui sont tellement importantes que le film en est presque le prétexte. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte n'est pas tellement l'histoire, mais les situations qu'on va pouvoir poser. Et le film, quelque part, va pouvoir en être l'écran. C'est-à-dire que c'est pas cette narration qui a vraiment... Enfin, moi, je suis pas encore très vieille comme productrice, j'ai 38 ans. Mais j'ai déjà pu, assister à une évolution, en fait, des normes qui entourent la réflexion sur les films, sur la production du... sur la diffusion des films, et que quelque part, je trouve qu'il y a des conventions de narration qui se sont vraiment imposées, sans être les meilleures, les meilleures, même je parle en termes de l'expérience que ça peut permettre en tant que spectateur, mais il y a des conventions énormes qui se sont imposées, comme si en fait il y avait une manière de faire récit, qui sont assez artificielles par ailleurs, et assez infantilisantes, parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la question des histoires, raconter des histoires, oui, on est des storytellers et tout ça. C'est très bizarre, en fait, à quel point cette idée-là s'est imposée. Parce que, enfin, moi, je me dis souvent, en fait, à qui on raconte des histoires ? On raconte des histoires aux enfants. Dans le monde des adultes, pour moi, la plus grande raconteuse d'histoires, c'est Scheherazade. Mais quand elle raconte des histoires, en fait, au sultan, c'est pour l'endormir. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose, raconter des histoires, qui est si souhaitable que ça. En revanche... proposer des expériences et aussi quelque part mobiliser le désir, réveiller le désir, je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait en termes d'ambition.
Le Vourdalak est une expérience effectivement sensorielle, visuelle aussi, surtout, film tourné en super 16 mm. Alors on ne peut pas trop retranscrire le côté visuel à la radio, mais on va pouvoir être tenté un peu de donner de cette atmosphère grâce à la bande-annonce que je vous propose d'écouter tout de suite.
Ouvrez-moi, pour l'amour du ciel.
Empruntez le sentier vers l'ouest. Vous rencontrerez la demeure du vieux Gorcha.
Mes enfants, je pars. Attendez-moi 6 jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde...
Tu respires !
Je revenais après ces 6 jours révolus.
Les choses du tombeau se doivent d'y rester.
Je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer, car alors je ne serai plus qu'un maudit vourdalak.
Qu'est-ce qu'un vourdalak ?
Si un père n'est pas tout pour ses enfants, il n'est rien.
On vient d'entendre la bande-annonce du Vourdalak d'Adrien Beau. On est toujours dans Vive le cinéma, perspective sur Aligre FM 93.1 avec la productrice du film Judith Lou-Lévy. Ce qu'on entend dans le film, c'est vrai, quand on regarde les premières secondes du film, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? C'est très bizarre, ça ressemble pas à des films d'époque qu'on a l'habitude de voir. On pourrait même croire que c'est un peu kitsch. Et en fait, on est pris par le sérieux du récit qui tient à beaucoup de choses, mais qui tient aussi aux acteurs qui jouent ça admirablement bien. On entend la voix du Vourdalak, la voix du vieux père joué par Adrien Beau, le réalisateur, mais on a aussi au casting Cassim Oteklin, Ariane Labette, Grégoire Collin, Vassili Schneider, et tous jouent ça impeccablement bien. Comment est-ce que vous les avez rencontrés ? Est-ce que c'était une envie pour ces acteurs d'Adrien Beau de tourner avec eux ? Est-ce que c'était vous qui avez pensé à eux ? Comment est-ce qu'il y a eu la rencontre et comment est-ce qu'on leur a proposé, pitcher en quelque sorte cette histoire?
Alors ça a été un casting. Alors il a duré longtemps dans la mesure où la phase de financement du film a été longue, et donc entre le moment où on a pensé au nom et le moment où on a validé, il y a eu un long temps qui était le temps juste de financement. Mais en fait, ça a été un casting très rapide en termes de désir et de validation des choix et d'acceptation des acteurs. C'est en fait deux directrices de casting, Christelle Barras et Sun Lan, qui nous ont accompagnés sur ce film. Et très rapidement, c'était Christelle Barras qui avait eu l'idée de Cassim Oteklin, qui a pas forcément encore, enfin qui n'avait pas encore été jusqu'à présent dans ce type de registre, oui. et notamment dans cette composition en fait là. Et ce qui a été bien, c'est qu'ils ont énormément en fait pu répéter avec Adrien, et je crois que les acteurs en fait ont été séduits par la langue du film, par l'écriture et la langue du film. Et ça, c'est un autre point qui probablement d'ailleurs nous a permis de nous rencontrer, nous entendre avec Adrien Beau. C'est l'action du langage en fait dans les différents films que j'ai produits en fait jusqu'à présent. La question de la langue parlée, elle est toujours au centre, quelque part, de la progression du récit. C'est pareil, en fait, c'est comme si... Je comprends pas, moi, par exemple, quand on voit un film, bon, je vais pas en nommer, mais dans les conventions dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des conventions de langage, des conventions de langue, comme si on se parlait que d'une manière, etc., alors que le langage mobilise beaucoup de choses. En soi, chez l'autre, la question déjà de la langue parlée, enfin la langue maternelle, mais aussi des registres de langue, de ce que ça vient chercher, de ce que ça permet de se dire ou de pas se dire. En fait, et le cinéma me semble permettre l'ouverture d'un espace comme ça linguistique auquel on n'a pas forcément en fait aujourd'hui accès si facilement si on y pense. Et alors certes, il y a la littérature qui d'ailleurs continue à très bien se porter, je crois, dans les activités des citoyens, citoyennes, mais je trouve que le cinéma permet en fait de travailler des langages. Et c'est vrai que le Vandala, qui est dans une langue très bizarre, c'est une sorte de langue inventée, donc c'est un film en français mais qui se passe pas vraiment en France, on sait pas tellement où ça se passe. Y a quelque chose qui appartient aussi d'ailleurs à une certaine forme d'humour. C'est un humour aussi littéraire, mais moi, j'avais été très marquée par exemple par le dernier film d'Éric Rohmer, Les Amants d'Astrid Céladon, qui commençait par un carton invraisemblable que j'ai plus exactement en tête, mais qui était à une certaine époque quelque part, quoi. Je crois que ça commençait un peu comme ça. Et puis bon, on voit des personnages débarquer, on ne sait pas si c'est de l'antique, si c'est du fantasme de l'antique. Enfin, Et cette possibilité de déplacement radical que permet le langage, que permettent les films, et je trouve quelque chose dont il serait dommage de se priver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si,
c'était à la base sur les acteurs, les actrices.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Mais ça parle aussi beaucoup de la dimension littéraire du film. Et c'est vrai que la force, dans ce qu'on l'a un peu entendu, c'est ce texte qu'on entend et qui est agréable à entendre. Déjà parce qu'il est bien dit aussi. Parce qu'avoir un beau texte, c'est une chose. Il faut aussi trouver les acteurs qui l'interprètent bien. Mais pour revenir peut-être sur la genèse du projet, comment est-ce que vous avez rencontré ce projet, cette histoire ? C'est Adrien Beau qui vous l'a proposé. Vous connaissiez Adrien Beau auparavant.
C'est intéressant parce que finalement, la question du langage, de la langue, plutôt là, en l'occurrence de la langue du film, elle était présente dès l'origine, puisque à la base, il avait déjà réalisé deux courts-métrages magnifiques qui s'appellent La petite sirène et Les condiments irréguliers. Dans La petite sirène, il y a déjà une marionnette qu'il avait conçue, parce que ce qu'on n'a pas encore pu se dire, c'est que dans le Vandalac, la créature vampirique, est une marionnette à taille humaine. c'est des effets entièrement mécaniques, mais on pourrait y revenir. Mais par ailleurs, elle a été conçue par le réalisateur qui la joue, donc c'est assez spécial comme démarche. Et c'est une démarche qui s'est faite à bas bruit, bizarrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Adrien a petit à petit amené, peut-être qu'au départ, il m'a aussi donné le courage, quelque part, de produire ça, parce que c'est complètement à contre-courant, en fait, de ce qu'on pourrait imaginer, surtout pour un premier film. Enfin, c'est une prise de risque, en effet, assez forte, parce que à quoi va ressembler la créature ? Il n'y a pas les filets, en fait, des effets spéciaux, on ne peut pas la concevoir vraiment à l'avance. Enfin, c'est par ailleurs une responsabilité très forte, qui pèse sur le réalisateur. Il faut que ça se marie avec des acteurs en chair et en os. Enfin, il y avait une sorte de truc où, en fait, jusqu'à la fin, en plus, on a tourné en pellicule. Donc, qu'est-ce que ça va rendre ? Enfin, franchement, honnêtement. Après, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que toute cette prise de risque-là a aussi, quelque part, engagé mon désir du film. Mais au départ, il était venu me voir parce qu'il avait un projet sur Sarah Bernhardt. Donc, là aussi, on va dire que on va dire qu'une certaine forme de culture lyrique qui est vraiment très très forte chez Adrien était déjà là, était déjà avec comme ça une grosse dose d'humour. Donc c'est quelqu'un qui, Adrien, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a un gros répertoire, il a une très belle mémoire et il a un gros répertoire de culture lyrique et poétique. Et il peut vraiment réciter des alexandrins à n'importe quelle heure du jour. Donc c'est vraiment au cœur, je crois, de sa proposition magique.
Oui.
C'est-à-dire que quand il fait un spectacle, il y a en général des marionnettes et des manières de se parler et de parler qui vous emmènent dans une sorte. L'origine du cinéma, c'était quand même un art forain, en fait. Le cinéma, il a commencé dans des cirques. Et le fait de pouvoir achalander les gens, il faut bien les faire venir avec une certaine forme de mystère. Et évidemment que la langue, le langage, est un moyen de véhiculer le mystère, si on le souhaite, l'exercer comme ça. Mais c'est difficile. Mais c'est comment on va poser ces mots, la scansion des mots, ce qu'on va éventuellement suggérer sans dire. En fait, c'est comment on va aller chercher tout d'un coup, détourner de son chemin un voyageur imprudent.
Ouais, mais ce que je comprends un peu dans la manière dont vous en parlez, c'est que l'envie n'était pas tant de produire ce film-là en particulier que de travailler avec Adrien Beau sur
un long métrage. C'est vrai que je me suis perdue en route, on est en conversation libre, c'est lundi matin, c'est très agréable, mais c'est vrai que voilà.
C'est intéressant les digressions toujours, ça permet de voir ce qui intéresse.
En tout cas, on se rencontre à la base parce qu'il veut produire, il cherche un producteur, une productrice pour ce projet donc autour de la vie de Sarah Bernhardt. Moi, à ce moment-là, on est en 2017. Et avec mon associé, Eve, on est en plein financement de notre premier long-métrage qui était Atlantique, de Mathilde Diop. Et ça nous mobilisait entièrement. Il n'y avait pas du tout la place d'engager un deuxième dialogue, en fait. Atlantique, je ne sais pas si on y reviendra à un moment donné dans la conversation, mais c'est un film qui s'est tourné à Dakar et dans les banlieues de Dakar la nuit, voilà, et qu'on a tourné en 2018.
Grand Prix au Festival de Cannes.
Oui.
2019.
Ouais. Et c'était pas possible à ce moment-là de penser à autre chose. Et donc, en fait, c'est une des grandes... Qu'est-ce que dans votre question, il y avait un peu... qu'est-ce qui détermine, à un moment donné, un choix de collaboration ? Il y a, la question du timing, elle est très importante. Et en l'occurrence, on n'était vraiment pas du tout disponible à ce moment-là. Et moi, j'avais été quand même assez, on va dire, attirée par ce que j'avais vu dans ses courts-métrages, par sa maîtrise de son langage. C'est quelqu'un qui dessine beaucoup, qui accompagne ses scénarios de calligraphie, de dessin, etc. C'est assez impressionnant, en fait, cette capacité qu'il a à manier différents types d'art plastique. Et en fait, au moment où je disais, en fait, franchement, on va pas le faire, le film, c'est pas possible et tout ça, on discutait, et puis c'est quelqu'un de très tatoué, Adrien, et en fait, je vois qu'il a les deux points de la morsure du vampire dans le cou. Et alors là, coup de bol pour lui ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il se trouve que les films de vampires sont à l'origine de mon rapport au cinéma. Et donc, comme c'était une sorte de désir vague, flou depuis longtemps, peut-être quand même un jour, il y aurait peut-être moyen de produire un film de vampire. Enfin, franchement, c'est un délire quand même de pouvoir faire ça. J'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question et là, j'ai mis la main dans un engrenage. Il était là, non mais t'inquiète, j'ai une petite nouvelle auquel je pense, je la connais et tout, je te l'envoie, etc. C'était la nouvelle La famille de Vourdalak, donc d'Alexei Tolstoï, qui est donc ce cousin éloigné, pas très talentueux fondamentalement, hein, de Léon. Et qui écrivait comme ça une sorte d'aristocrate russe complètement, décadent, qui écrivait en français des nouvelles gothiques. Et il se trouve que l'adaptation, c'est encore un autre sujet, c'est un sujet en tout cas hyper intéressant au cinéma. Et notamment, comme le dit d'ailleurs Adrien, c'est mieux d'adapter des mauvais textes que des bons textes. Parce que franchement, on a plus de liberté, à la limite, pour faire quelque chose de bien que quand on est écrasé par l'immensité littéraire d'une œuvre qui, en général, d'ailleurs, est bien, bien plus profonde que le récit lui-même.
Moi, je trouve ça génial que ce soit adapté de Tolstoï, mais pas le Tolstoï auquel on pense. Rien que ça, c'est...
Alexa, il y a un paléon. J'ai un peu l'impression qu'on passe notre vie à dire ça. Et en fait, à ce moment-là, a commencé une sorte de phase. Donc, je parlais tout à l'heure de cette étape qui est le développement, qui est une étape hyper importante, quoi, qui est tout le cheminement de conception, de pensée d'un film, etc. De rêve du film aussi. Et donc, en 2018, a commencé, en fait, un dialogue avec Adrien Bouvier également, qui est le co-scénariste du film, et en fait, qui a été, en fait, le travail d'adaptation de cette nouvelle. Et ça a été une adaptation très intéressante parce que, en fait, dans le texte d'origine, c'est un texte, alors là aussi, bourré de conventions, on va dire sociales, mondaines, sexistes, enfin... Il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout en fait envie de, enfin je sais pas, de voir dans un film aujourd'hui, en tout cas pas nous, quoi. Et donc en fait il y a eu un gros travail de fait sur les personnages, sur les équilibres relationnels et de pouvoir dans cette famille, sur finalement qui porte quelque part la responsabilité, qui au contraire détruit, comment se jouent les rapports entre les personnages. Et à ce niveau là on a pu y mettre et Adrien, évidemment, d'abord avec Adrien Bouvier, donc bon, il y a deux Adriens, ont pu y mettre, je crois, voilà, des questions qui sont pour eux, voilà, des questions très importantes dans leur parcours intime, de réflexion aussi politique, quelque part, de deux personnes qui vivent au XXIe siècle et qui ont plutôt envie d'aller questionner des enjeux d'émancipation que de reproduire des schémas de merde pas pensés, quoi. Donc ça a été à la fois, on va dire, pour schématiser, une forme de modernisation de la nouvelle, mais à travers quand même la langue du texte d'origine.
Oui.
Je sais pas si c'est très clair.
Lucie, Lucie, qu'est-ce qui t'amène? Lucie, souci. Qu'est-ce qui te gêne? Toute la ville t'appartient. Toute la ville est dans tes mains. Le reste n'est qu'histoire ancienne. Tu connaissais déjà la fin.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Lucie de Christophe sur Aligre FM 93.1. Vous écoutez Vive le cinéma Perspective. Nous sommes toujours avec la productrice du Vourdalak, d'Adrien Beau, qui est actuellement en salle, Judith Lou-Lévy. C'est un film risqué à produire. C'était quelque chose qui vous plaisait à la base? C'est ce que vous disiez, l'idée de prendre des risques?
Non, mais franchement, avec les années, moi, je me posais la question. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on choisit un film plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui vous tient? Et aussi, pourquoi ce qui vous tient est un pari aussi qui pourrait tenir d'autres gens sur leur siège dans une salle? Et avec les années, je me suis dit, et c'est un truc dont j'aime bien discuter avec mes consoeurs, confrères, productrices, c'est que je crois qu'un film doit être un peu dangereux. Pourquoi il doit être dangereux ? C'est pas une position juste, de frime, quoi, ou de... C'est... Je crois que... Enfin, on va pas se le cacher, c'est dur de produire un film. Enfin, c'est un gros combat, ça dure longtemps, faut s'accrocher, quoi, en fait. Faut juste pas lâcher. Et il faut pas oublier que, à la base, un film, c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on va faire exister. Et franchement, à la base, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il va falloir réveiller le désir de plein de gens sur notre chemin. Et on croit en quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une forme de foi très spéciale. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu jusqu'à présent. Et je crois que c'est aussi ce qui permet de mettre du cœur au combat. C'est que... si on se bat alors que c'est justement dangereux, ou on se bat parce que c'est dangereux, c'est qu'en fait, on y croit énormément. C'est qu'on est prêt à y laisser des plumes. Mmh. Et donc, ça en vaut la peine, comme on dit dans cette belle expression. Mmh. Non, mais... Et parfois, au fond, j'en parlais... j'en parlais notamment avec Ladjli cette année et ses coproducteurs, Toufi Kadiadi et Christophe Barral, qui sont des gens avec lesquels, d'ailleurs, j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer et qui nous ont aussi soutenus sur le film de Nadav Lapid, Le Jeune Odaed, qui est sorti il y a 2 ans. Mmh. À propos du jeune imam, qui est un film qui a été une aventure de production très particulière et très politique cette année. Mmh. Et donc, Le Jeune Imam, c'est un film de Kim Chapiron, pas de Ladjli, mais Ladjli le coproduit en fait avec Srab, donc avec Christophe et Toufik. Et il racontait à quel point, malgré le succès, mais genre incroyable des Misérables, c'est-à-dire que c'est un film, Les Misérables, qui a eu le prix du jury à Cannes, qui a fait, je sais pas, j'ai 1,5 million d'entrées, peut-être qu'il en a fait 2 millions. Enfin, franchement, à ce stade, moi, j'arrive même plus à compter. En centaines de milliers, je me perds. Qui a eu le César du meilleur film, qui a eu le César du public, qui avait été créé à un moment donné, je sais plus s'il y est toujours.
Qui a disparu.
Ouais, enfin. Ils ont eu les critiques, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et alors, Le Jeune Imam, une difficulté incroyable à le produire. C'est-à-dire qu'ils se sont remangés les mêmes difficultés qu'ils s'étaient mangées sur Les Misérables. Mmh. Et bon, moi, j'étais assez révoltée par ce que ça traduisait, en fait. Et en même temps, je pouvais que leur dire une chose dans laquelle je pouvais aussi me retrouver quelque part, c'est que si malgré ces difficultés, alors qu'ils avaient probablement la possibilité de faire plein de choses de manière plus facile, ils ont fait ce film, c'est qu'ils y croyaient que ça faisait sens, et là-dedans, il y avait une sincérité, et c'était un film d'ailleurs qui était réussi, qui a marché contre toutes les prédictions des, on va dire, je sais pas moi, oiseaux de malheur là, qu'on peut croiser sur nos routes dans le cinéma. Enfin voilà, il y a plein de gens qui, au fond, ont des pouvoirs de décision sans spécialement connaître le cinéma, quoi. Mmh. Enfin, franchement, c'est quand même assez comique, souvent. Donc, des pouvoirs de décision, parce que en production, souvent les gens... D'ailleurs, je pense que c'est pas mal d'en parler, puisque c'est une émission qui invite des productrices à parler. C'est quoi le métier de producteur ? C'est le développement dont je parlais. Et puis après, c'est... en fait, on est des vendeurs, on est des marchands. En fait, on cherche de l'argent. Pour que le film sur lequel on s'est engagé et sur lequel, en général, on a commencé déà à dépenser de l'argent alors qu'on ne l'avait pas pendant le développement, que le film puisse le faire. Mmh. Et il faut y croire, quoi. Et donc, cette dangerosité-là, pour y revenir, elle peut avoir différents types. Elle peut être de différents types. La dangerosité, c'est tout simplement la difficulté qui fait que, malgré tout, on se battra pour ça.
Oui.
Et voilà, on pourrait développer, mais... Mais si un film, quelque part, présente pas spécialement d'enjeux, pas spécialement... moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi on le fait, quoi. C'est-à-dire... Ouais, je me dis, au fond, l'expérience dans la salle sera aussi fadasse que la difficulté à déterminer la raison pour laquelle on a quand même permis l'existence de l'objet filmique. Et en revanche, je crois que le spectateur ressent les batailles. Pardon, hein, c'est un peu... Il y a quelque chose d'un peu romantique dans ce que je dis, Mais je crois qu'au fond, ça crée une tension quand même. Enfin, il y a une étrangeté, quoi. Et je crois que dans le Vourdalak, évidemment, c'est pas un film qui, au premier abord, avec une charge politique. Déjà, c'est un film qui existe avec une liberté plastique formelle, a priori, qui n'est vraiment mais pas du tout intégré dans les standards actuels du marché, notamment, ça sera encore un autre sujet, on peut en parler, du cinéma dit de genre, et en tout cas le cinéma fantastique aujourd'hui, qui est vraiment pareil, très très normalisé, quoi. Enfin,
ouais, standardisé.
Standardisé, voilà, exactement. Et en même temps, la difficulté de le faire et le fait de le faire quand même et de rendre quand même possible malgré tout parce qu'on y croyait, parce qu'en effet, dedans, il y a une charge. Déjà, il y a de l'humour. Enfin, c'est un film, j'espère que les gens s'autorisent à rire dans le film parce qu'il n'y a pas écrit au début. Franchement, vous pouvez rigoler si vous voulez, mais le film est vraiment très fantaisiste. C'est une grande fantaisie. Et cet humour-là, cette étrangeté-là, cette liberté, je crois qu'au fond, les spectateurs qui voient le film la reconnaissent, les reconnaissent et sont contents.
Bien sûr.
Et en fait, c'est notre but. Notre but, c'est que franchement, on se tape dans la main à un moment donné, quelque part symboliquement, avec les spectateurs des films.
Oui, c'est vrai que la première réaction qu'on a quand on voit ce film, c'est de se dire c'est un film qui ressemble à aucun autre, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est finalement assez rare au cinéma de voir des films qui ressemblent à aucun autre, alors que ce qu'on a envie souvent, c'est d'être surpris, de vivre des expériences différentes.
Exactement.
Et c'est ça, c'est vrai que c'est assez rare. Et c'est intéressant de voir des films qui proposent ça et qui sont, malgré tout, qui peinent à exister.
Il peine à exister, mais en fait, c'est aussi... Mais ça, c'est un truc aussi assez français, quoi. Parce que moi, j'avais été un peu marquée, puisqu'on parle des parcours, etc., mais j'avais eu la chance, à un moment donné, de me retrouver aux États-Unis sur un marché du film indépendant. Un marché, c'est vraiment... un marché du film, on arrive avec son projet, et puis on fait du speed dating avec des gens. En général, franchement, ça sert à rien. Mais c'est quand même parfois un peu édifiant sur les conversations qu'on peut avoir. Et puis ça permet aussi de mesurer notre capacité à identifier le film qu'on est en train de faire. Parce que quelque part, essayer de traduire très rapidement ce qu'il est, son désir, comment on en parle. On se rend aussi compte parfois, dans ces moments-là, des carences qu'il y a encore dans la définition du projet, ou de ce qu'on pourrait en faire, ou de comment on pourrait mieux attirer, est-ce qu'on arrive à attirer l'attention ou pas. Donc, c'est toujours un peu édifiant quand même, c'est pas mal. Et donc, c'était un marché comme ça, du film indépendant. Les Américains ont un grand fantasme, l'indépendance. Pareil, autre sujet.
C'est difficile à définir.
Ouais,
non, indépendant de quoi et de qui par rapport
sur
à quoi.
Le sujet, je recommande une lecture que moi j'avais trouvée géniale à l'époque, qui était celle de Peter Biskind, le nouvel Hollywood et Sexe, mensonge et Hollywood, parce que c'est vraiment une histoire du mythe de l'indépendance, quoi, sur 40 ans de cinéma américain, enfin états-unien. Mais là-bas, j'avais entendu un truc qui m'avait grave rassurée, parce que c'est vraiment pas du tout ce qu'on entend en France, et c'est étouffant ici, en fait, à quel point il y a vraiment... Il y a vraiment un grand discours, en fait, un grand fossé entre le discours et la réalité. Voilà. Là-bas, directement, en fait, la question de la singularité, elle est pensée aussi de manière intéressante sur le plan des affaires, parce qu'un film très singulier se démarque dans la masse de films, parce qu'il y a une masse de films, c'est-à-dire que même dans les films étrangers, ce n'est qu'une infime partie qui est disponible sur les écrans en France. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on identifie un film? Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, intéressant, voire sage sur le plan business, d'être singulier, alors que ici on peut entendre des discours aberrants du genre la singularité, alors là c'est ce qu'il y a de plus compliqué, personne n'en veut. Mais on entend ça en France aujourd'hui. Moi, j'ai entendu ça sur ce film. J'ai entendu ça. Et franchement, les bras m'en tombent, en fait. C'est quoi? Parce que si la singularité, c'est vraiment trop compliqué, personne n'en veut, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que là, on veut quoi? On veut de l'homogénéité. C'est ça qu'on veut. Ça existe.
On parle des États-Unis, c'est vrai que le distributeur américain, certainement le plus hype aujourd'hui dans le cinéma indépendant, A24, fait son line-up, son marketing autour de ce côté film singulier. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est un autre débat, mais ce qui fait leur marque de fabrique, et c'est ce dont ils se vantent en tout cas, c'est des films qui ressemblent à aucun autre et qui sont
particuliers. Mais la singularité,
ça marche.
C'est de l'expérience. Et En fait, puisque c'est des grands sujets du moment, et en fait, moi, je vois, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir en parler, parce que c'est difficile quand on n'est pas H24 dans ces questions-là, on n'a pas le temps forcément d'y penser, mais c'est quoi la différence entre un film et une série ? On entend même dans le cinéma des gens qui sont censés protéger le cinéma dans ce pays dire au fond, allez, ce réalisateur, cette réalisatrice, un film, une série, c'est sa créativité qui s'exprime, c'est des talents, leur liberté, machin, mais c'est des bêtises. C'est faux, en fait, de A à Z. C'est-à-dire que déjà, c'est pas du tout les mêmes économies, c'est des œuvres qui se fabriquent pas du tout dans les mêmes enjeux de liberté. Parce que déjà, pour dire quelques mots sur la production aux auditeurs, un film, en fait, on le finance avec plein de partenaires différents. Et donc, quelque part, c'est à la fois difficile, parce qu'il faut tous les trouver, mais en même temps, ça nous donne une liberté, c'est qu'en fait, en tant que producteur indépendant, ce qui est aussi un métier qui se perd, en fait, on tient, même avec sa petite fragilité, on tient beaucoup de ficelles. En fait, on centralise plein de gens différents. Donc, ça donne une forme de liberté, parce que tous ces gens-là, ils se mettent d'accord sur un projet, il n'y en a pas un qui va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres en disant « Non, mais en fait, ça, je veux pas cet acteur, tu prends l'autre. » En fait, on est garant en tant qu'indépendant pour plein de gens de ce qu'on est en train de faire. Alors que dans la série, en général, c'est une relation un peu mono... Enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est...
Oui. Déjà, le souvent... diffuseur.
Voilà, en fait, on est dépendant. Comme en général, il n'y a qu'un seul ou deux partenaires de financement, donc le diffuseur, en général, que ce soit une plateforme ou une télé, en fait, il a un pouvoir incroyable sur le producteur. C'est que si à un moment donné, il te dit « Merde », mais tu te mets à genoux, en fait. T'es pas du tout libre. Et alors, il y en a qui vont dire « Non, mais nous, on adore. » Il y a tout un discours vraiment de marketing de la liberté maintenant qui est vraiment bon. Enfin, mais fondamentalement, c'est pas du tout la même liberté d'expression, en fait, déjà entre les deux. Et par ailleurs, outre le fait que c'est des conditions d'existence qui n'ont rien à voir, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes... Enfin voilà, c'est pas les mêmes rapports à la liberté de créer, aux écritures, aux projets, etc. Pour moi, une des grandes différences, c'est qu'en effet, la série, par sa durée et par son caractère épisodique et par l'histoire, quelque part, du récit feuilletonnant depuis le 19e siècle, voire plus tôt, puisque finalement, c'est la question du récit, infini, du récit long. En effet, ça repose énormément sur la question de la narration, et on en parlait tout à l'heure des histoires. Mais pour moi, un film, la grande différence, c'est que c'est un moment, c'est un temps restreint. Alors, on fait des films de plus en plus longs. Bon, moi, je suis pas hyper pour avec ce mouvement. Je trouve ça un peu chiant, personnellement, de passer 3 ans dans une salle. C'est un truc personnel. Mon niveau même de ma capacité de concentration a diminué ces dernières années. Et d'ailleurs, Le Bourdalais, qui est un film court, enfin, ça fait genre 1h29, et c'est agréable, personnellement, à mon avis. Mais à part ça, un film, pour moi, c'est une expérience. Et donc, si c'est ça, une des choses qui distingue la série des films de cinéma, si c'est le fait que d'un côté... il y a l'empire du récit, de la narration, de l'histoire, et de l'autre, on va dire l'empire de l'expérience. Et ben, franchement, ça offre une approche, enfin ça ouvre en tout cas une autre perspective sur ce à quoi on est censé nous engager en tant que productrice, cinéaste. On doit proposer une expérience de quelque chose, quoi. Donc voilà. Bon, c'est des trucs que j'aime me raconter. Hein. Mais par ailleurs, je pense que quand même, ça distingue en effet les métiers. Et ça distingue en fait aussi les types d'écriture. Parce qu'en fait, on écrit du temps en fait, au cinéma. On écrit qu'est-ce qui se passe dans un moment de temps, dans un espace-temps, dans une pièce où il y a un temps. Comment faire en sorte que ça explose, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que ça me révolutionne. Et j'espère... Évidemment, c'est des grandes ambitions, hein. Bourdalak, on a fait ce qu'on pouvait aussi avec les moyens du bord. Enfin, bon, je dis ça, c'est pas un film si pauvre que ça, c'est un film qu'on a fait avec 1,5 million d'euros. Voilà, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints dessus. Et d'ailleurs, c'est un des côtés assez improbables du film, c'est qu'il a rassemblé des gens très, très différents. Et ça aussi, pour moi, ça, quelque part, incarne la désirabilité du projet face à tous ces tenant du discours là, de la rentabilité du film complètement stupide, hein, comme si en fait on avait pensé notre société pour être rentable. Enfin, franchement, on a vraiment perdu en qualité de réflexion. Non, en fait, un film n'est pas d'abord forcément fait pour être rentable, il faut qu'il le soit. Mais il le devient rentable parce qu'il est désirable. Mais en fait, il y a une étape au milieu là, qu'il ne faut pas zapper. Il ne faut pas la zapper. Et en fait, il faut la porter et après on joue. On est des joueurs. C'est encore un autre... une autre caractéristique de nos métiers, c'est qu'on joue, on parie sur des, comme je disais tout à l'heure, sur des œuvres qui n'existent pas encore. On parie sur le fait que ça va être bien, on parie sur le fait que ça va plaire, on parie sur le fait que ça va être, ouais, que ça va être réussi, quoi. Mm-hmm. On parie sur le fait que ça va marcher.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Justement, vous disiez beaucoup de partenaires financiers très très différents. Vous les avez tous approchés de la même manière en présentant le même projet d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a une, on adapte son discours à la personne à qui on parle?
Ah, bien sûr, on adapte son discours. Bien sûr. On est des marchands. Mais en même temps, on n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que, franchement, les gens, ils ont tous reconnu le film.
Oui.
Ils ont reconnu le projet.
Le projet n'a pas changé depuis le début, quand vous commenciez à l'imaginer avec Adrien Beau, et ce qu'il est aujourd'hui?
Non, ce qui a été, je pense, surprenant, mais qui était surprenant pour moi aussi, et moi, c'est ce que je trouve aussi très beau dans mon métier, c'est que c'est comment c'est traduit esthétiquement le projet sur un premier film. C'est toujours une surprise, parce que après, je pense qu'on peut deviner un peu les possibilités, enfin en tout cas le monde esthétique d'un cinéaste, en tout cas ce qui l'intéresse, qui évidemment c'est à chaque fois hyper différent. Mais c'est intéressant d'identifier à chaque fois les spécificités esthétiques de quelqu'un, ce qu'il va aller chercher. Et donc sur un premier film, il y a une zone d'incertitude qui va être en effet d'une part la texture voulue par le cinéaste, la cinéaste, mais aussi sa capacité à le faire.
Oui.
À remplir ses propres.
Ouais, c'est une chose de l'imaginer, c'est autre chose de la réaliser. Voilà.
Et alors, ce qui a été assez marrant dans l'histoire de Vandalax, c'est que je pense qu'à la base, Adrien aussi, il m'a vendu aussi un projet que je voulais entendre. Et je pense qu'à un moment, j'étais moi-même, je pense, dans une sorte de fantasme, et ça, c'est toujours une mauvaise chose, j'ai remarqué, c'est d'un truc plus standard, quelque part, faire un genre plus standard, faire un truc, voilà, faire un film de vampire qui marche pour les jeunes et tout. Au final, les jeunes sont au rendez-vous de ce film, hein, c'est-à-dire que quelque part, sa bizarrerie, son ancrage comme ça dans une esthétique qui a un peu disparu, et qui fait que Adrien, il aime bien dire que c'est comme si on retrouvait un film qui était déjà très vieux, quoi. Mais en fait, c'est un truc qui fait délirer toute une génération qui a pas forcément la cinéphilie des gens de 50 ans, 60 ans qui financent les films, eux se disent ouais, bah, c'est bon, c'est quoi ce film là qui ressemble au film de ma jeunesse, mais en fait il y a plein de gens qui n'étaient pas encore nés à ce moment là et c'est comme quand on voit par exemple moi ça m'avait pas mal surprise quand sont arrivés à l'époque où Stranger Things, la série, est sortie, et puis après il y avait aussi des films style Super 8 et d'autres où en fait il y avait toute une esthétique des années 80 qui a en fait cartonné auprès des millennials, enfin des gens nés après 2000, quoi. Et parce que je pense que c'est comme probablement quand des gens nés dans les années 80 pouvaient en effet se mettre à kiffer aussi le look, le style d'un cinéma plus 70s.
Ben, oui. On est toujours un peu nostalgique de l'époque qu'on n'a pas connue, ça c'est sûr. Et c'est vrai
que c'est inspirant, parce que oui. C'est la distance. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que c'est mystérieux. C'est-à-dire qu'en fait, être en permanence écrasé sur ce qui vous ressemble, sur son image, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je crois que fondamentalement, il faut quand même rechercher des expériences de l'altérité. Enfin, de l'altérité, ou en tout cas, c'est des questions qui sont vraiment importantes, quoi. Qui sont qu'est-ce qu'on renvoie de l'image du monde, quel monde on recrée, pourquoi, quel monde on veut donner à voir. Évidemment, ça change à chacun des films, mais c'est des questions qu'il faut se poser et qui va aussi avec la question des normes esthétiques. Parce que évidemment, rien n'est neutre. Il n'y a pas genre un réel qu'on fait apparaître dans un film, puisque le réel est une expérience vécue singulièrement et différemment pas forcément par chaque individu, même si c'est le cas, mais en tout cas par les différents groupes culturels, sociaux. Et donc, en fait, à travers l'esthétique d'un film, l'image d'un film, c'est aussi finalement un monde qu'on propose, quoi, qu'on donne à voir. Et donc, quel est ce monde qu'on donne à voir? Qu'est-ce que ça raconte sur l'industrie qu'il y a derrière? Quels sont les mondes qu'on n'a pas vus? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il faut encore donner qu'est-ce qu'il faut encore montrer? En fait, un film, c'est d'abord de la monstration, quoi. C'est, en fait, on raconte pas une histoire, on montre un monde dans un film. Donc évidemment, là où c'était super avec Adrien Beau, c'est que c'est quelqu'un qui sait créer avec ses mains il s'est créé des mondes fantastiques. Donc c'est un cas très spécifique qui est celui du cinéma de genre. Mais c'est la première fois qu'on en fait, en fait, au film du bal, notre société. C'est... Et d'ailleurs, on va encore en faire là. Enfin, en fait, c'est pas vrai, c'est pas la première fois.
Même si Atlantique, pour certaines personnes, était présenté comme un film de genre.
Non, mais c'est pour ça qu'en fait. Enfin,
toujours les questions de définition sont toujours.
Ouais, non, mais. De toute façon, franchement, surtout la question, c'est qu'est-ce qui n'est pas de genre. Enfin, surtout, qu'est-ce que ça veut dire du cinéma qui n'est rien. Non, mais. Oui, 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 non, mais c'est sûr qu'en fait, on a, nous, fait plusieurs films. On a aussi coproduit Zombie Child.
Bertrand Bonello.
En effet, le cinéma fantastique, le genre, et là, il y a un gros film de science-fiction qui arrive pour l'année prochaine, il y a encore, il y a encore du fantastique qui va débarquer. Ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, voilà, c'est qu'en tout cas, on propose des lunettes pour regarder le monde avec un film, et ça, c'est important de l'avoir en tête, je crois. Enfin, en tout cas, mais là, c'est vrai qu'on était sur quand je dis qu'on était sur une expérience du genre spécifique, c'est que le film de vampire est souvent un film assez codé, un univers de film assez codé. Voilà. Ce qu'on fait pas, on fait pas forcément toujours des films aussi, entre guillemets, codés.
Oui.
Sachant que le code est aussi un kiffant. Enfin, c'est-à-dire que c'est un type, les geeks.
Oui, on
les
peut se plaire à reproduire...
À la question du code et de comment justement ce qu'on reproduit, ce qu'on ne reproduit pas, etc. C'est un type de délire.
Oui, on le voit dans les slashers, on le voit dans pas mal effectivement de voilà. films qu'on appelle de genre.
Mais d'ailleurs, on va dire que ce serait peut-être la seule définition un peu puriste de ce que c'est que le genre. C'est normalement le cinéma de code. Après, à partir du moment où on peut dire que la comédie c'est du genre, le fantastique c'est du genre, l'horreur c'est du genre, le polar c'est du genre, le thriller c'est du genre, le film politique c'est du genre. Enfin, en fait, aujourd'hui, maintenant, enfin, franchement, c'est un mot, il faudrait peut-être s'en débarrasser pour reparler de manière un peu plus précise.
Oui.
Parce que.
Bon. Oui, parce que dans les dossiers, vous aviez dû, j'imagine, indiquer le genre.
On a même fantastique.
Oui.
Fantastique. Et, mais pareil, fantastique, enfin, franchement, je mets. Enfin, en fait, moi je trouve que ça veut rien dire. C'est pour ça que nous, on dit que c'est un film gothique.
Oui. Oui, c'est pas mal, ça correspond à ces...
Ah ouais, c'est de la vieille pierre qui est froide, qui suinte. Ouais, franchement, on est dans du tombeau.
Des vieilles forêts.
Oui.
Le film est sorti la semaine dernière, on a passé le premier week-end. Ça se passe comment?
Ça se passe, en fait, on a des très bons retours de presse, de spectateurs. Après, la question de la diffusion des films aujourd'hui, c'est surtout des premiers films. C'est en fait c'est très grave, c'est une question très grave, très importante. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas été bien entendu dans le discours de Justine Triet, donc la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, quand elle a reçu la Palme d'Or à Cannes, et qu'elle a dit: moi là je suis là aussi pour, quand je parle d'exception culturelle, pour parler de la possibilité qu'auront des gens qui veulent faire des films à faire leur premier film, leur deuxième film, leur troisième film, parce que en fait, si on regarde bien les films qui marchent entre guillemets en termes de box office, notamment le cinéma d'auteur qui marche en termes de box office, c'est des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes films. C'est-à-dire que à la base, le contrat sur les premiers films, c'est pas de faire un succès au box office. C'est pas, franchement, c'est mais une débilité opportuniste d'époque de dire ça, parce que ça a jamais été le cas. Les premiers films, franchement. Enfin, c'est on fait exister quelqu'un, on fait exister une signature, on fait exister un regard artistique, etc. On se dit, vas-y, c'est bon. Honnêtement, ça donne grave envie de te proposer un autre truc. On en fait un deuxième, enfin un troisième. Et au bout d'un moment, ça finit par être au point, quoi. Ouais. C'est dur de... On n'est pas réalisateur dans son perso. Enfin, je veux dire, c'est un mythe, quoi. Donc, moi, je trouve que le film, voilà, c'est un film, on l'a présenté à Venise à la Semaine de la Critique, il va passer, il va avoir une longue vie de diffusion en télé, sur en plateforme, il est en salle en ce moment, on va faire des rencontres avec des étudiants, avec des écoles de ciné, avec des BTS, avec des facs. Donc, moi, je suis très contente, en fait, de la manière dont le film existe. Je trouve qu'il aurait dû avoir plus de salles, et que c'est d'ailleurs, puisqu'on a aussi réfléchi, et ça, c'est un autre enjeu de diffusion. Et, en fait, je mélange les sujets à bon escient, parce que, en fait, il y a beaucoup de sujets dont il faut parler, et bon, voilà, on a le temps disponible, mais c'est des questions qui sont très importantes aujourd'hui quand on est indépendant et qu'on s'intéresse au cinéma, enfin, qu'on produit du cinéma d'auteur, et qu'on parle à des gens qui, a priori, aiment ça. Parce qu'en fait, c'est un truc qui plaît, le cinéma d'auteur. dit d'auteur art et essai. Enfin, en fait, c'est pour ça qu'on est connu dans le monde en tant que cinéma français. Et en fait, en vrai, il y a grave du public. Enfin, il y a plein de films, il y a plein de gens qui y vont. Alors, ils peuvent pas aller voir tout, mais c'est quand même un truc qu'on doit défendre et sur lequel on se bat, en fait. Et voilà, donc la diffusion des films, aujourd'hui, en fait, c'est devenu une sorte de cimetière, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on nous fait croire, parce que moi, je trouve ça, j'aimerais bien, en fait, mieux comprendre le truc, et je suis vraiment disponible pour qu'on m'explique. On nous fait croire que les exploitants font la pluie et le beau temps, et qu'ils font ce qu'ils veulent, et qu'en gros, ils veulent juste que leurs salles soient remplies, et que leurs engagements, il n'y en a plus, et qu'on ne sait pas comment faire pour leur faire tenir leurs engagements. Comme si, bon, comme si on n'avait pas des leviers, a priori, en France, en fait, pour quand même un peu contraindre les gens à une réglementation qui favorise l'intérêt général et le bien commun. Genre on ne connaît pas cette culture-là en France. On va en parler, non, c'est juste qu'elle a été lâchée. Et de l'autre, il y a des distributeurs qui, je pense, aussi s'appuient sur ce discours de crise pour, en fait, ne plus se battre sur la diffusion de leurs films en disant que ça va être trop compliqué. Mmh. Et donc, le risque, en fait, hein, c'est que ces premiers films qui déjà existaient au moment de la salle, difficilement, souvent, les films, il faut qu'ils durent. C'est des œuvres qui durent, les films. Ça dure sur des... En fait, un bon film, c'est un film qui reste. Et que les gens vont avoir le temps de redécouvrir à différents moments de leur vie, vont peut-être revoir, vont en reparler. Voilà. Enfin, c'est pas genre, allez, deux semaines, il est réussi son film ou il est raté. Enfin, en fait, oui. On n'est pas. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est quoi ce délire? C'est des films, on met des millions d'euros sur un film. Genre, vous allez vraiment, on va pas lancer ça comme un œuf qui s'éclate au sol. Enfin, genre, ça se protège, quoi. Et en fait, il y a aujourd'hui un risque, réellement, à force, en fait, déjà, d'une part, d'être obsédé par le box-office, et d'autre part, à dire que les premiers films, vraiment, c'est trop compliqué, personne n'en veut, ou je sais pas quoi. Bah, le risque, en fait, c'est que plus personne n'investisse dessus. Et donc, Justine Triet avait raison, une fois de plus, hein, s'il fallait le rappeler, parce qu'elle s'en est quand même pris plein la gueule hein, par des gens qui, franchement, une fois de plus, connaissent pas le cinéma, alors qu'il disait un truc très simple, très sensé, et sur lequel, je pense, l'intégralité du secteur indépendant la soutient, et qui, en effet, aujourd'hui, pose question sur... si on s'interroge sur le succès box-office immédiat des premiers films, enfin, franchement, dans 2 ans, 3 ans, y en aura de moins en moins. Parce qu'un premier film réussi, c'est quoi? C'est un film qu'on remarque. Déjà, c'est un film réussi sur le plan... Bah, la critique, c'est super important, mais la critique s'est fait assassiner. Elle n'a pas été soutenue, elle a crié à l'aide. Enfin, il y a eu des tribunes qui sont sorties, vous devez le savoir, notamment l'année dernière.
Aussi en voie de disparition.
Sur la fin du print, c'est un métier qui a été hyper maltraité, comme si c'était vraiment des gens qui se touchaient la nouille et qui servaient juste à, voilà, à massacrer des films. Alors qu'en fait, hein, c'est ce qui donne de l'égalité dans la promotion, puisque les films qui ont de l'argent, ils achètent leurs espaces pub. Mais la critique permet de donner de la visibilité à tous les films. Ceux en tout cas qui plaisent. Donc la critique, les festivals, c'est super important. Les festivals A, c'est très très dur d'y arriver quand il y a un premier film qui arrive dans un festival A. Donc festival A, c'est quoi? C'est Cannes, Berlin, Venise. Voilà. En fait, c'est une réussite. Ça, c'est des éléments, outre le fait des gens qui l'accompagnent, de ce que ça va donner, ce que ça peut donner lieu comme prochain film, comment les spectateurs réagissent dessus, est-ce qu'on arrive à analyser le public de ces films. Nous, sur le Vourdalak, on a un public jeune. Et moi, ça, je trouve que c'est une réussite. Faire un film aussi spécial. Parce qu'un des trucs du cinéma d'auteur qui a été compliqué en France ces 20 dernières années, ça a été, en fait, de réussir à intégrer la révolution de l'information, la révolution numérique. En fait, il y a eu trop... On a perdu beaucoup de temps à continuer à communiquer sur le cinéma à travers les médias dits traditionnels.
Et toucher un public jeune a toujours été un peu le but, l'objectif de beaucoup dans le monde.
Les critiques ont changé, le monde a changé.
Et on a beaucoup de préjugés aussi par rapport à ce que les jeunes attendent et ce qu'ils devraient voir comme cinéma.
Mais des préjugés de vieux.
Ça, c'est... En tout cas, pour voir un film différent, une expérience à part et faire exister aussi un autre cinéma, je vous encourage vivement à voir Le Vourdalak d'Adrien Beau, actuellement en salle. C'est aussi un très bon film pour Halloween, hein. Ça sort à la bonne période. Merci beaucoup, Judith Lou-Lévy. C'était Vive le cinéma Perspective, avec à la technique Enrico Mastro Giovanni, voilà, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est sur Aligre FM. Bonne journée et à très vite.
Merci.
Vous Vous écoutez Aligre FM 93.1.